Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Sur Osmose Radio, on est riche d'espoir, on est riche d'amour et parfois même on est riche d'auditeurs et du coup tout ça se télescope un petit peu, c'est parfois un peu violent. Hein. Moi-même, je suis tellement rempli d'affection pour vous, chers amis, que parfois ça déborde sur le micro et toujours est-il que dans Un œil en coulisses, eh bien, on va parler des gens qui ne sont les pauvres riches que de thunes finalement et c'est un petit peu l'objet du spectacle pour lequel je reçois Stéphane Gornikowski, pardon, je prononce votre nom correctement.
C'est quasiment parfait, oui.
Ok, autant pour moi. C'est pas facile, vous avez un joli prénom, moi-même je m'appelle Stéphane, hein. Et quoi qu'il en soit, vous êtes venu nous parler du spectacle pour lequel vous êtes à Avignon en ce mois de juillet 2018, La violence des riches. Ça se joue à 11h25 au Théâtre des Carmes, André Benedetto, tous les jours, et c'est adapté de l'œuvre dont on entend parler de temps en temps et depuis quelques années, de Michel et Monique Pinson-Charlot, qui ont travaillé, qui ont fait une étude sociologique en fait, sur cette classe sociale dominante qui, une des dernières finalement, selon leurs propres termes, à se définir encore comme une classe sociale, puisque le concept de lutte des classes a été largement effacé de nos mémoires. Alors, une des premières questions que je me pose à propos de ce spectacle, c'est comment vous-même, vous avez été amené à découvrir le travail de Michel et Monique Pinson-Charlot ?
En fait, moi, de par mes études, je connaissais un peu leurs travaux, mais pas dans le détail. Et puis, je les ai entendus il y a à peu près 3 ans dans une intervention forcément bondée, parce que dès qu'ils font une intervention publique, il y a toujours beaucoup de monde. Et puis, je trouvais que ce qu'ils racontaient résonnait pas mal avec ce que je ressentais, moi, un peu personnellement. Donc, je suis allé les revoir une seconde fois et puis je leur ai opposé quelques objections sur leur approche, leur dénonciation de l'attitude des riches. Alors après, on pourra définir riches. Et donc, leur retour à mes critiques m'ont semblé assez convaincante. Et donc, je suis allé leur proposer d'adapter leurs travaux au théâtre, ce qui, curieusement, n'avait jamais été fait. Enfin, on était les premiers à leur proposer, sachant que leurs travaux ont été adaptés en BD, parfois en documentaire. Donc, en fait, personne avant, en tout cas, n'était allé les voir pour leur dire si on essayait de monter vos travaux au théâtre. Et ils ont accepté. D'ailleurs, on a pas mal collaboré. Enfin, j'ai encore vu Monique la semaine dernière pour la version d'Avignon ici, là, en juillet. Et donc, ils ont accepté avec pas mal d'enthousiasme, parce que là, leur enjeu, c'est aussi d'essayer de diffuser le plus largement possible leurs réflexions et puis leur alerte maintenant sur la gravité de la situation liée aux inégalités qui augmentent, quoi.
Voilà, les inégalités sociales, bon, qui sont pérennes et depuis quasiment l'origine de l'humanité, ou peu s'en faut, mais qui s'est aggravée ces derniers temps dans notre société et qu'on a dit les Pinson-Charlot, dans leur travail qui s'appelait tout simplement La violence des riches, dont vous avez repris le titre pour faire une adaptation théâtrale. Alors, on n'est pas forcément très calé en sociologie, on en parlait hors antenne. On a tous de vagues concepts qui nous restent du lycée ou tout simplement de notre expérience humaine, tout simplement, hein, cette violence qui est parfois tellement intériorisée qu'on ne la conçoit même plus. Et ces rapports de force tellement intériorisés. Et finalement, ils se situent, à mon sens, un petit peu dans la lignée d'un Bourdieu dont tout le monde connaît le nom, mais pas forcément le travail. Et Bourdieu qui a eu une démarche très novatrice à l'époque, puisque tous les sociologues de son temps s'intéressaient aux gens qui étaient dominés dans la société et finalement on s'intéressait assez peu aux mécanismes de cette domination. Mmh. Et Bourdieu a été un des premiers à travailler sur les dominants, justement. Ailleurs, on le faisait déjà dans les sociétés animales, hein, mais pour les sociétés humaines, ça se faisait assez peu et c'est quand même ce qui nous concerne au premier chef. Donc, en ce sens, il me semble, à tort ou à raison, que les Pinson-Charlot se situent dans la continuité de Bourdieu. Est-ce que c'est aussi un aspect qui a pu vous intéresser ?
En tout cas, oui, eux se réclament du travail de Pierre Bourdieu et effectivement, comme vous le dites, leur particularité, c'est d'avoir choisi assez rapidement Alors déjà de travailler en couple, puisque c'est un couple depuis plus de 50 ans je crois, et d'avoir choisi de se focaliser sur les très hautes classes sociales, donc parfois les nobles, donc ils ont assisté à des chasses à cours, par exemple ils ont suivi en VTT, en général quand ils racontent tout ça c'est assez marrant, mais aussi les très grandes fortunes, donc ils sont allés rencontrer soit des aristocrates, soit des très grands bourgeois, donc ils ont vraiment depuis 30 ans travaillé exclusivement sur les très hautes catégories sociales, les gens qui cumulent souvent de l'argent, du pouvoir, des relations, de multiples relations.
Du patrimoine immobilier.
Du patrimoine immobilier ou financier aujourd'hui, et puis des titres de prestige. Donc, et en fait, nous, on a essayé de condenser tout ça, de rendre compte de ces travaux qui remontent maintenant à plus de 30 ans, enfin, qui ont démarré il y a plus de 30 ans, en une heure cinq. Et donc, voilà, toute la gageure du spectacle, c'est de respecter et d'être assez fidèle à cette démarche sociologique depuis 30 ans, mais d'en rendre compte en une heure, tout en intégrant aussi des travaux très très récents, comme par exemple les travaux sur les inégalités mondiales, qui sont liés à un groupe mondial de chercheurs autour de Thomas Piketty, mais voilà, dont les travaux, les chiffres d'ailleurs sont disponibles en ligne, puisque un des enjeux aussi de cette création et de ce travail de dénonciation des inégalités qui augmentent, c'est de rendre ça visible. Voilà. Donc on a la pensée, les réflexions des Pinson Charlot, leurs travaux, on les a condensés en une heure et on y a ajouté d'autres choses, aussi les enquêtes journalistiques, puisque les scandales par exemple autour des paradis fiscaux, autour de la fraude fiscale, c'est quand même beaucoup lié à des démarches portées par Mediapart ou par des consortiums de journalistes et... On est aussi allé rencontrer par exemple des journalistes de Mediapart pour comprendre et savoir comment ça se passe. Voilà, quand ils reçoivent un document confidentiel de la part de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, comment ça se passe pour qu'ils puissent remonter l'info, la vérifier, voir quelles sont les intentions de cette personne. Donc on a vraiment fait un boulot aussi documentaire et d'enquête à notre niveau pour avoir quelque chose qui soit documenté sur le fond, qui tienne la route, et je pense que ça tient la route. Et tout en proposant une forme qui, quand même, divertisse et prête à rire à certains moments. En tout cas, c'est les retours qu'on a.
C'est les Égyptiens qui disaient « Tout grand voyage commence par un premier pas ». Et comme vous le disiez, effectivement, la première étape d'une lutte, c'est déjà la prise de conscience de ces inégalités, notamment, et pour lesquelles les Pinson Charlot ont largement permis de donner corps, finalement, à ce déluge d'informations qui est libre hein, dans notre société, mais qui nous arrive par vagues qui sont difficiles à analyser, d'où aussi le mérite de votre démarche. Alors, il me semble, pour rester dans les métaphores à l'Égypte antique, on va dire, que de la même manière qu'Anubis était le guide entre les vivants et les morts, eh bien, j'ai l'impression que vous avez fait œuvre de passeur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y avait ce travail sociologique des Pinson Charlot qui, comme vous l'avez précisé, avec une ténacité admirable, ont étudié ces milieux de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, dans son quotidien et dans ce qu'elle ne perçoit pas forcément, même plus elle-même, comme violence de classe. Et vous-même, Vous venez du théâtre, cette compagnie dont le nom est un petit peu un aveu, hein, compagnie vaguement compétitif, et vous-même vous êtes basé dans le nord de la France, donc déjà je me dis que si tels sujets vous touchent plus particulièrement, si vous avez eu envie de les aborder, c'est parce que vous-même vous venez de cette région, pardonnez-moi, hein, mais c'est aussi parce que vous venez de cette région de maîtres de forge, de patrons de mines, de grands propriétaires, etc. Et même si l'époque de Germinal est lointaine, dans les psychologies des gens, elle est peut-être pas tant que ça. Vous pensez que je surinterprète un peu ?
Bah, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le nord de la France comporte, par exemple, la métropole lilloise, donc Lille et sa région, c'est l'une des métropoles françaises les plus inégalitaires, où on trouve des poches de richesse hyper élevées. Par exemple, vous avez un quartier, on en parle dans le spectacle, un quartier de à peu près 3000 habitants, dont le niveau de revenu est à peu près équivalent à celui de Monaco, en moyenne,
ah ouais.
Qui est en fait lié beaucoup à la famille Mullier, donc la famille Auchan.
Propriétaire d'Auchan,
voilà, Decathlon, notamment. Kidoutou, enfin, je pourrais citer toutes les marques et je crois qu'on est à la radio, on ne cite pas de marque.
Mais il suffit pour nos auditeurs d'aller à la zone commerciale Avignon Nord et toutes les enseignes sont liées à la famille Mullier, c'est déprimant.
Ouais, bah, donc vous avez dans le Nord mais aussi dans d'autres métropoles, on pourrait trouver ça à Lyon aussi, à la fois des poches de richesse extrême et des poches de pauvreté extrême. Et effectivement, l'un des ressorts aussi de ce travail que j'ai souhaité mener, c'est le fait d'avoir plutôt été un bon élève, c'est-à-dire de venir d'un milieu très populaire, d'avoir été un bon élève, donc toute la question de la méritocratie, si on travaille bien à l'école, on va réussir, et puis me rendre compte en étant étudiant que à résultat équivalent, mes copains, en l'occurrence de Sciences Po, qui venaient de bonnes familles, finalement trouvaient des stages dans des endroits beaucoup plus prestigieux que là où moi je me retrouvais en stage. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre conscience en me disant mais on a les mêmes résultats scolaires et en même temps eux se retrouvent à New York et moi je me retrouve dans un petit journal local à faire même pas du journalisme. Pourquoi ? Enfin voilà. Et c'est là où j'ai commencé, c'était le début d'une prise de conscience sur ces inégalités qui sont pas forcément liées à des inégalités liées aux résultats scolaires, par exemple. Quoi. D'où aussi, pour faire une petite mention là-dessus, d'où aussi le fait qu'on ait souhaité, en mars, créer une forme pour le jeune public sur la question des inégalités, qui parle notamment du service public. Donc c'est aussi une adaptation des travaux des Pinson Charlot. Mmh. On parle du service public, on parle des impôts, ce qui, pour les enfants de 10 ans, sont pas forcément des choses très connues. Et en fait, ça marche hyper bien. Et moi, j'ai pu parler de la fraude fiscale à des enfants de CM2 de 10 ans, parce qu'en fait, la fraude fiscale, on peut commencer à en parler en parlant de Ronaldo ou de Messi ou voilà, de champions que à peu près tous les élèves connaissent, qu'ils soient filles ou garçons. Et à partir du cas de Ronaldo, par exemple, on peut parler des paradis fiscaux, de la fraude fiscale, de pourquoi les riches fraudeurs échappent à la prison et pourquoi les pauvres qui volent un téléphone portable peuvent ne pas y échapper. Donc en fait, moi, je me suis aperçu que, dès le plus jeune âge, CM2, 6e, on pouvait parler de ces questions des inégalités, que les enfants y étaient sensibles, et que, notamment pour les... Et moi, j'ai rencontré des gamins incroyables, de réflexion à 10 ans en CM2 sur des questions de fraude fiscale. J'ai eu affaire à des réflexions surprenantes de maturité, vraiment. Et donc, et c'est aussi pour moi un enjeu, notamment à ces enfants de milieux populaires, de comprendre que, contrairement à ce que raconte la République, quand même, ils ne partent pas au même niveau que les enfants de classe moyenne ou de classe supérieure. Et on n'est pas en train de les critiquer, mais en tout cas, il faut que les enfants de familles modestes comprennent que ils vont avoir affaire à un parcours plus semé d'embûches que la moyenne de la population. Et plus on en prend conscience tôt, plus on a de chances de vivre finalement mieux que ses parents, qui est quand même un enjeu finalement de la transmission entre les générations, d'avoir une meilleure vie que ses parents, ça me paraît un objectif qui n'est pas négligeable. Voilà.
Qui est loin d'être critiquable de toute façon. Et là, vous avez anticipé sur une de mes prochaines questions, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de parler de cet aspect spectacle pour enfants, puisque contrairement à ce qu'on aurait tendance à croire, les enfants sont très bons publics pour tout ce qui est question de philosophie et de sociologie, mais simplement, il faut le faire dans des termes qui leur soient accessibles. Et ça a été fait notamment chez vous. Alors, tout à l'heure, j'ai digressé avant même de finir ma question. Vous êtes un petit peu un passeur entre le travail sociologique des Pinson Charlot et les planches et la scène. Et donc, en ce sens, vous avez adapté leur œuvre et votre collègue à la mise en scène, Guillaume Balliard, lui, s'est occupé de la scénographie proprement parlée. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un travail que vous avez fait peu ou prou en vous renvoyant la balle chacun. Quoi. C'est un peu un travail en duo, en quelque sorte.
Moi, j'ai fait en gros un premier défrichage du texte, parce que les Pinson Charlot, c'est plusieurs milliers de pages, et comme on a ajouté d'autres sources, c'est vraiment plusieurs milliers de pages.
Mais vous n'avez panaché ça avec d'autres sources, dont vous citiez Mediapart tout à l'heure, oui.
Voilà, des enquêtes journalistiques un peu approfondies, des travaux parlementaires, par exemple on parle de l'optimisation fiscale par IKEA par exemple ou par Nike, mm-hmm. C'est des pratiques agressives de marques que tout le monde connaît, qui au final font perdre des milliards d'euros à la collectivité, donc à chacun d'entre nous, à l'hôpital public, à l'éducation, enfin, ça nous touche très concrètement. Donc en fait, moi, j'ai pris cette matière-là, j'ai commencé à la condenser, à prioriser aussi tout ça, et puis j'ai commencé à essayer d'inventer des scènes ou des manières de rendre compte de cette matière, et après, on l'a testé au plateau avec Guillaume, et moi, en tant qu'auteur, j'avais... j'étais pas complètement arc-bouté sur mon texte, donc Guillaume, le metteur en scène, pouvait me dire « Stéphane, ça, il faudrait couper, ok, on coupe ça. » Peut-être qu'il faudrait réinventer une scène pour parler de ça, parce que là, c'est un peu trop peut-être didactique. Donc, j'essaye de me replonger et d'inventer une nouvelle scène. Donc, on a vraiment on a fonctionné par aller-retour au plateau après une première matière qu'on avait, une première mouture de texte. Et puis, on a vraiment été dans l'échange au plateau, et histoire d'être le plus à la fois documenté et divertissant en une heure sur une matière où effectivement toutes les personnes ont sans doute des choses à dire ou pensent des choses, mais on essaye aussi d'échapper à la critique de c'est manichéen, etc. C'est qu'à un moment donné, enfin c'est manichéen au sens de vous êtes des gauchistes, etc. Ce que je peux dire, c'est que très récemment, donc le FMI, Christine Lagarde, qui passe pas pour une gauchiste de première.
Pas vraiment, non.
Voilà. Même le Fonds monétaire international aujourd'hui dit qu'il y a trop d'inégalités dans le monde et qu'il faut taxer plus fortement les riches. Donc c'est un rapport officiel du FMI il y a quelques mois. Et là, pas plus tard que ce matin ou qu'hier, Alain Minc, qui est un macroniste...
Excusez-moi, j'ai du mal à entendre parler le nom d'Alain Minc sans rigoler, c'est pas gentil. Mais...
Voilà, donc Alain Minc, qu'on peut pas non plus identifier comme un intellectuel d'extrême-gauche, qui est macroniste déclaré, a dit, lui, là, dans une interview à Libération, que le niveau des inégalités devenait aussi dangereux, au sens de... il pouvait prêter le flanc à une insurrection et c'est vrai que l'une des questions qu'on pose dans la pièce, c'est finalement les gens se reçoivent et supportent beaucoup, enfin les catégories populaires, même les classes moyennes qui sont en train de s'appauvrir, hein, les classes moyennes occidentales sont en train de s'appauvrir. Là, si on garde les mêmes tendances d'accroissement des inégalités, probablement vos revenus, les miens, ceux d'à peu près tout le monde là dans cette pièce, vont diminuer dans les 30 ans qui viennent. Est-ce que c'est de ça dont on a envie ? En tout cas, on essaye de poser la question tout en essayant de dire qu'aujourd'hui, même des gens identifiés de droite ou soutien de gens pro-patronat disent que les inégalités ont atteint un niveau trop élevé. Donc on sort d'une question de partisane et de gauche-droite. C'est là, on est sur un enjeu transpartisan. On a Christine Lagarde, on le dit dans le spectacle, on a Christine Lagarde qui nous a rejoint maintenant, ce qu'on disait pas l'an dernier à Avignon, puisqu'elle n'avait pas encore fait ses déclarations.
Et effectivement, l'an dernier, la situation était différente. Alors, je passe sur les astuces de mise en scène, parce que moi, si vous voulez, au Théâtre des Carmes, il y a 2 ou 3 ans, j'avais vu une même adaptation à un travail sociologique, c'était Jean-Claude Michéa, avec l'enseignement de l'ignorance, et Seb Lantz avait pris un parti pris plus contemporain, plus minimaliste que celui de votre collègue Guillaume Balliard. Vous-même, pour adapter ce travail sociologique des Pinson-Charlot sur la violence des riches, vous avez adopté plus de comédie, etc., quelque chose de moins didactique, comme vous le disiez tout à l'heure. Et l'important, c'est que le message passe de toute façon. Et alors, par contre, la création s'est faite en plusieurs étapes. Ça a été en 2015-2017 qu'il y a eu une première étape de maturation, en quelque sorte. Et finalement, entre-temps, il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron. Et là, ça a changé un petit peu la donne. Vous avez fait une nouvelle version cette année.
Oui, on voulait revenir. En fait, le confort était de revenir à Avignon avec la même version, parce que l'an dernier, ça a pas mal marché. On avait 130 personnes de moyenne tous les jours à Avignon, ce qui est pas mal dans le off. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on a pris le risque de revenir avec une nouvelle version. Et en tenant compte de l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, moi, dans le spectacle, il y a une interview de Monique Pinson-Charlot que j'ai faite il y a 10 jours. Et effectivement, elle analyse cette arrivée de Macron et ses conséquences. Et puis voilà, des chiffres sont sortis, par exemple récemment, sur la que font les entreprises du CAC 40 de leurs bénéfices, de la répartition entre les actionnaires, les salariés et l'investissement, par exemple, dans les entreprises. Bon, on voit que depuis 10 ans, c'est des choses extrêmement déséquilibrées, c'est-à-dire en gros 5% des bénéfices reviennent aux salariés, ce qui est contre les 2/3 pour les actionnaires. Alors après, on peut rentrer dans le détail et discuter, mais quand même, il y a un déséquilibre qui est assez flagrant. Donc ça, c'est des chiffres tout récents. Et puis, par rapport à l'an dernier, voilà, en tout cas, du point de vue de Monique Pinson-Charlot, enfin des Pinson-Charlot, la question du changement climatique, la question de l'arrivée des migrants, c'est pas des nouveautés absolues, mais c'est des choses qui, aujourd'hui, attestent d'une gravité importante de la situation et des conséquences de l'accroissement des inégalités. Donc ça nous semblait important de rendre compte aussi des conséquences... Enfin,
de la violence écologique qui va s'ajouter déjà à celle qui existait précédemment.
Oui.
En quelque sorte.
Donc ce qu'on n'avait pas l'an dernier qu'on a ajouté, c'est la question du changement climatique aussi et de la question de l'analyse de l'arrivée des migrants qu'on peut voir finalement comme il y a peut-être 40-50 ans, comme des travailleurs immigrés qui essayent de faire vivre leur famille et qui pour ça, se déplacent. On demande aux gens d'être mobiles. Finalement,
Startup Nation, les gars, faut bouger.
Les migrants sont des travailleurs qui essayent de trouver du travail en étant mobile, sauf que cette mobilité, elle passe par la Méditerranée, par plusieurs milliers de kilomètres.
Enfin, et par du gaz au poivre à l'arrivée. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un sujet passionnant. On aimerait beaucoup passer du temps à en discuter, mais toujours est-il que vous pouvez aller voir au théâtre des Carmes à 11h25, La violence des riches. Dites-moi.
Oui, je voulais juste parce que comme j'ai eu un propos assez sérieux, quand même, normalement, on rit dans ce spectacle. Enfin, en tout cas, les gens ce matin riaient, hier riaient. Donc, c'est voilà, c'est pas un truc plombant. On a fait en sorte que ce soit plutôt marrant. Donc, voilà, juste pour dire, c'est pas un truc d'intello.
Mais les Monique, Monique et Michel Pinson-Charlot, de toute manière, eux-mêmes sont des gens qui ont de l'humour. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé finalement de votre spectacle avant de rendre l'antenne ?
Eh ben, ils ont vraiment adhéré. Et ils sont hyper contents parce que souvent, ils ont des lecteurs qui viennent les voir et qui disent, on a vu le spectacle, c'était super.
Donc, c'est comme ça qu'ils en sont amenés à acheter le bouquin.
Oui, aussi, oui. Non, mais aussi carrément. Mais
c'est bien. C'est bien ce que je disais. Vous êtes un passeur d'œuvres. Vous êtes un passeur d'idées. Merci Stéphane Gornikowski. Merci. J'aurais réussi à prononcer votre nom correctement. Pardonnez-moi, Stéphane Gornikowski, d'être venu nous parler de cette adaptation du livre des Pinson-Charlot, La violence des riches au Carme, à 11h25 tous les jours. Et je mets évidemment les liens vers aussi l'adaptation en théâtre pour enfants sur le Facebook d'Osmose Radio. Voilà, chers amis, je vous invite à rester à l'écoute de l'actualité du off sur Osmose. À bientôt.